BW. Vue d'Allemagne.
Ils ont quitté leur pays pour fuir la guerre ou à la recherche d'une vie meilleure. À l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés célébrée le 20 juin, Vue d'Allemagne vous propose ces trois prochaines semaines des histoires d'exil choisis ou forcés. Et pour commencer cette série, on se plonge dans l'histoire au sens propre du terme. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des milliers de Polonais ont trouvé refuge en Afrique. Un réalisateur canadien a enquêté sur l'incroyable odyssée de ses aïeux que l'histoire a oublié. Dans la seconde partie de ce magazine, nous irons au Liban à la rencontre de réfugiés palestiniens âgés. Ils ont quitté leur pays lors de la Nakba en 1948 et ne l'ont plus jamais revu. Aujourd'hui, ils transmettent leur mémoire aux réfugiés nés en exil dans le cadre d'ateliers intergénérationnels. Vous écoutez Vue d'Allemagne, Willkommen et bienvenue. C'est une petite histoire dans la grande. Pendant la Seconde Guerre mondiale, plusieurs milliers de Polonais ont trouvé refuge en Afrique de l'Est après avoir été déportés dans des camps de travail soviétiques. Jonathan Durand est un réalisateur canadien. D'origine polonaise, il a enquêté pour retrouver la trace de ces réfugiés oubliés des livres d'histoire.
Quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai vécu en Afrique du Sud et au Mozambique. Je travaillais dans le développement international et j'ai eu ce sentiment bizarre d'être à la maison, ce qui était curieux pour un jeune Canadien blanc. J'ai compris peu à peu que ça avait un rapport avec l'histoire de ma famille. Elle y avait vécu 6 ou 7 ans dans un camp de réfugiés.
Le camp de réfugiés où a grandi la grand-mère polonaise de Jonathan Durand était situé dans l'actuelle Tanzanie. Et quand des années après, elle raconte à son petit-fils son enfance au pied du Kilimandjaro, la plus haute montagne d'Afrique, celui-ci n'en revient pas. Devenu étudiant en histoire, Jonathan Durand s'étonne de ne trouver aucune information sur ce qu'ont vécu ses aïeux.
Les professeurs de mon université ont toujours nié la possibilité que les membres de ma famille aient vécu comme réfugiés polonais en Afrique.
Jonathan Durand décide donc d'entreprendre des recherches. La découverte des certificats scolaires de sa grand-mère établie à Tenguru, dans le nord de la Tanzanie, le motive à partir pour un voyage riche en émotions et découvertes qui débouchera 9 ans plus tard sur le film documentaire « Memory is our homeland ». Le film retrace l'odyssée oubliée des réfugiés polonais, victimes collatérales de l'alliance entre l'Union soviétique et l'Allemagne nazie en 1939. Une longue file de femmes marchant, fichues sur la tête, avec enfants et bagages, sur une route en noir et blanc. Au fond, on aperçoit des montagnes. Sur une autre séquence, de jeunes enfants blancs aux côtes saillantes jouent au bord d'un lac africain, devant des huttes de paille. La grand-mère de Jonathan Durand, Kasia Gerech, a vécu entre 1942 et 1949 dans ce décor, dans le Tanganyika, une région alors administrée par la Grande-Bretagne. La communauté polonaise de Tenguru plantait des légumes, fabriquait des chaussures, des nattes et des objets en osier. Mais comment est-elle arrivée là ? Julia Deflin, chercheuse sur les migrations, connaît bien les dessous du périple qui a conduit environ 19 000 Polonais par des détours en Afrique de l'Est. Tout a commencé par un protocole secret dans le pacte de non-agression germano-soviétique d'août 1939 qui a partagé de facto la Pologne entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique. Quelques jours plus tard, les deux puissances envahissent la Pologne et tout comme les nazis dans l'Ouest, les soviétiques mènent des purges dans l'Est du pays. Un épisode que l'histoire n'a pas retenu, explique Julia Deflin.
Du point de vue allemand, on sait à peu près ce que la Wehrmacht et l'occupation nazie ont commis en Pologne. Mais ce qu'on sait beaucoup moins, c'est que l'Union soviétique a annexé elle aussi la Pologne et qu'elle y a pratiqué le nettoyage ethnique et essayé de réorganiser la société. C'est une perception très allemande de l'histoire qui est sans doute liée au fait qu'on voulait éviter de détourner l'attention des atrocités des nazis parce qu'on risquait sans cela d'être soupçonné de vouloir les relativiser.
Des centaines de milliers de Polonais, dont de nombreux Juifs, sont ainsi déportés en 4 vagues vers la Sibérie et le Kazakhstan, où ils sont forcés de travailler dans des kolkhozes. Mais en 1941, le destin de ces déportés bascule du jour au lendemain. Après l'attaque allemande sur l'Union soviétique, les Russes rejoignent en effet les Alliés dans leur lutte contre Hitler. La Pologne renoue alors ses contacts diplomatiques avec l'Union soviétique et obtient la libération des déportés polonais.
L'idée des Polonais était de former une armée pour combattre aux côtés des Alliés et écraser Hitler. On a donc appelé les volontaires à se rassembler à Buzuluk, dans le sud de l'Union soviétique, pour constituer cette armée. Et bien sûr, il n'y a pas que des jeunes hommes aptes au combat qui ont afflué, mais tous les gens capables de marcher et qui espéraient être évacués avec cette armée.
Face à l'affluence, les Alliés décident d'emmener les Polonais hors du territoire soviétique, direction l'Iran. Et tandis que les hommes suivent une formation militaire avant de rejoindre l'Italie pour combattre, le sort des civils est moins évident. On ne peut pas les renvoyer en Pologne où la guerre fait rage. Les Britanniques cherchent alors une autre solution.
Les Britanniques ont trouvé des lieux pour les civils dans leur ancienne zone d'influence coloniale. C'était des bases militaires, des aéroports et des prisons qui dataient de la Première Guerre mondiale. Les ex-colonies, qui étaient en plein processus d'indépendance, ont dit « Ok, vous pouvez faire venir des réfugiés, mais en contrepartie, vous construisez une ligne de train qu'on pourra garder quand les réfugiés seront partis. » Et c'est ce qui a été fait, et c'est ça qui explique l'importante présence polonaise en Afrique de l'Est, qui faisait partie de la zone d'influence britannique.
Et c'est ainsi que les anciens déportés polonais se retrouvent en Tanzanie, en Afrique du Sud ou encore au Zimbabwe, où ils peuvent attendre la fin de la guerre. Une fois qu'elle est finie, les gouvernements africains font pression pour renvoyer les réfugiés, mais ces derniers ne peuvent toujours pas retourner en Pologne, tombés dans le giron soviétique. Peu à peu, les Polonais quittent l'Afrique pour émigrer en Grande-Bretagne, en Australie ou au Canada. La grand-mère de Jonathan Durand rejoint l'Angleterre en 1949. C'est là qu'elle rencontre son mari, lui aussi polonais, et survivant du camp de concentration de Majdanek. Le couple s'installe au Canada en 1954. Morceau par morceau, Jonathan Durand a pu reconstituer le puzzle familial. Mais c'est une expérience qu'il a vécue à la fin de ses recherches qui a joué un rôle central dans la composition de son documentaire.
Après des années de recherche pour mon film, j'ai trouvé une bobine oubliée dans des archives qui montrait la vie des réfugiés, y compris de ma famille en Tanzanie. Après 2 minutes, j'ai reconnu l'hôpital et à côté, un groupe de jeunes filles qui regardaient la caméra et l'une d'elles était ma grand-mère.
Jonathan Durand a encore la chair de poule quand il repense à ce moment.
J'ai compris que cette scène deviendrait le centre de mon film. C'était comme si ce matériel avait attendu que quelqu'un raconte cette histoire.
Le documentaire Memories Our Homeland a été présenté au Festival du film de Montréal en 2018 et a obtenu le prix du public. Vous pouvez en voir un aperçu sur le site vimeo.com. La deuxième histoire de notre série sur les réfugiés nous emmène au Liban. Plus de 70 ans après avoir été expulsés de Palestine, des seniors palestiniens se réunissent chaque jour dans le centre pour personnes âgées actives du camp de réfugiés de Nahr el-Bared, situé dans le nord du Liban. Là, entre jardinage, chants traditionnels et cuisine, ils transmettent leur mémoire aux générations nées en exil, tandis que le droit au retour des réfugiés palestiniens reconnu par l'ONU est plus que jamais en péril. Un reportage d'Emmanuel Haddad.
Pour entrer dans le camp de Nahr el-Bared situé au nord du Liban, il faut pénétrer une enceinte militarisée surveillée par l'armée libanaise. À l'intérieur, plus de 20 000 réfugiés palestiniens vivent dans des conditions de privation aiguë, à l'instar de la majorité des 174 000 réfugiés palestiniens vivant au Liban. Parmi eux, certains sont arrivés il y a 70 ans, en 1948, lors de ce que les Palestiniens appellent la Nakba, la catastrophe.
Je m'appelle Mohamed Mustafa Kassem, je viens du village d'Amka dans la région d'Acre. Je suis né là-bas en 1935. Je suis sorti de Palestine peu après mes 10 ans. Je m'en souviens bien, ils sont arrivés, nous ont tiré dessus, nous avons fui sous les oliviers. Ils nous ont dit « Demain ou après-demain, vous allez rentrer, demain ou après-demain ». Ils se sont moqués de nous. En fin de compte, on est parti. Comme ça, avec rien dans les mains, tout juste nos habits sur nous. Nous sommes arrivés au Liban en 1948, d'abord dans un camp de réfugiés à Tyr. Chaque famille avait un oranger pour se cacher du soleil. Les têtes à l'ombre, les jambes au soleil.
«
Mohamed Mustafa Kassem est installé dans le jardin du centre pour personnes âgées actives de Nahal Bared. Géré par l'ONG Social Support Society, cet espace accueille une soixantaine de seniors, en grande majorité des femmes. Avec son verger et son four à pain traditionnel, c'est un îlot de sérénité dans le chaos du quotidien de Nahal Bared.
Je m'appelle Thérèse Daoud, directrice du centre pour personnes âgées actives de Nahr el-Bared. Je les accompagne dans toutes les activités, l'agriculture en premier lieu, mais aussi les travaux manuels, l'artisanat, les activités culturelles, le sport, un grand nombre de choses. Et nous aussi, nous bénéficions des récits qu'ils nous transmettent sur l'exil douloureux qui les a menés jusqu'ici, sur la vie après la Nakba. Toutes ces histoires, nous les collectons et nous les archivons, car ils sont très âgés, donc ils ont plus d'expérience de vie que nous. Ils nous enrichissent avec leurs histoires.
Quelques mois après la Nakba, l'Assemblée générale de l'ONU a voté la résolution 194, qui décide qu'il y a lieu de permettre aux réfugiés qu'ils désirent de rentrer dans leur foyer le plus tôt possible. 70 ans plus tard, le droit au retour reste une revendication politique majeure pour les réfugiés et leurs descendants. Pour ces derniers, nés dans les camps, les personnes âgées sont la première source d'informations sur leur pays d'origine.
Nous organisons des rencontres intergénérationnelles. Des écoliers, des enfants de la maternelle aux enfants plus âgés du camp viennent rencontrer les seniors pour chercher ce qu'ils veulent savoir. Parfois, ils cherchent des informations sur la terre, la patrie, parfois sur les traditions, parfois sur l'artisanat. Ils sont les sources de savoir et les autres apprennent d'eux pour que le jour où ils mourront, les générations qui les suivent portent leurs aspirations.
Mais les nuages s'annoncent sur l'avenir des réfugiés palestiniens. Après avoir transféré l'ambassade américaine à Jérusalem, le président américain Donald Trump a annoncé le plan du siècle, visant à mettre un terme au conflit israélo-palestinien. Des fuites dans la presse israélienne évoquent notamment que la nouvelle Palestine conçue par le plan serait amputée des territoires colonisés par Israël en Cisjordanie. Alors que les autorités palestiniennes ont déclaré ne pas avoir été consultées, les réfugiés palestiniens refusent en bloc cette initiative.
Le plan du siècle et les autres, nous les refusons. Nous voulons rentrer dans notre pays. La volonté compense l'impuissance. Ils ont leurs atouts, nous avons les nôtres. Ce sera peut-être dans des centaines d'années. Nous allons mourir, nos enfants n'iront peut-être pas, mais ce seront peut-être leurs enfants. Chaque génération peut être la génération du retour.
Les anciens de Nahal Bared savent qu'ils ne reverront pas leur terre natale. Il leur reste à témoigner de leur enfance aux jeunes générations, et ce jusqu'à leur dernier souffle.
Si seulement nous étions morts en Palestine et nous n'avions pas pris le chemin insultant de l'exil. Je suis sortie de Palestine à 14 ans. Je m'appelle Amina Hassan Mouad. Je suis de Safouri, région de Nazareth. J'ai 6 garçons et 4 filles. Ils sont mariés. Certains sont devenus enseignants. Ils me demandent pourquoi tu es partie de Palestine. Je leur réponds qu'on a vu les bombardements et les combats et qu'on a fui. Mon époux disait, mon temps est limité au Liban, je veux revenir en Palestine. Il est mort ici finalement. La Palestine est belle, belle, belle.
Les 25 et 26 juin prochains, un atelier économique intitulé « De la paix à la prospérité » va être organisé conjointement entre les États-Unis et Bahreïn à Manama, la capitale du Bahreïn. Ce sommet se veut la première pierre à l'édifice du plan du siècle imaginé par le président Donald Trump. Rien n'indique encore qu'il aboutira. Les autorités palestiniennes ont décidé de le boycotter et appellent les nations arabes à en faire de même. L'annonce de nouvelles élections en septembre prochain en Israël, après l'échec de Benjamin Netanyahou à former un gouvernement, risque au mieux de retarder, voire de faire échouer l'initiative américaine.
Un reportage de notre correspondant au Liban, Emmanuel Haddad, et c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Les deux semaines prochaines, vous retrouverez Hugo Flotatalon pour de nouvelles histoires de réfugiés qui vous emmèneront au Royaume-Uni et en Grèce. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss !